La société civile Force Vive de Kinshasa demande au gouvernement et au Parlement de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle constate dans un arrêt l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. Elle souhaite que l'une des deux institutions plaide auprès de la Cour le cas de force majeure afin d'éviter le chaos constitutionnel. Quelle analyse faire de cette proposition? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Maître Carlos Mupili, coordonnateur de la société civile Force Vive de Kinshasa. Bonsoir, Maître.
Ah, bonsoir, enfin.
Professeur Tshibangu Kalala, bonsoir, professeur.
Bonsoir, Alain.
Vous êtes professeur de droit et président du parti politique Notre Beau Pays, parti de l'opposition. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Adieu.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La société civile Force Vive de Kinshasa invite le gouvernement ou le Parlement à saisir la Cour constitutionnelle sur l'impossibilité pour la CENI d'organiser l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. Dans un rapport sur l'observation électorale 2014-2015, cette organisation fait remarquer que toutes les parties impliquées au processus électoral n'ont pas joué leur rôle pour permettre que le délai constitutionnel soit respecté. On écoute à cet effet Maître Carlos Mupili au micro de Michel Kifindangoy.
Il est difficile qu'on puisse convoquer l'élection présidentielle dans le délai prévu par la Constitution. Alors, il y a trois défis majeurs. Le premier défi, c'est la volonté politique. Et cela peut être résolu à travers le dialogue national si chacun essaie un peu de subordonner ses intérêts latents au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Deux, la logistique qui peut être résolue par le financement. Mais le temps qui est le défi le plus redoutable, parce qu'avec l'argent, on ne peut pas faire reculer le temps. On ne peut pas arrêter le temps. Le calendrier avance. Et c'est pourquoi nous disons ceci. Il serait profitable que soit le gouvernement, soit le président de l'une des chambres, saisisse le juge constitutionnel pour plaider le cas des forces majeures. Enfin, qu'il y ait un arrêt pour limiter un temps pour bien organiser les élections. Enfin, on évitera le chaos constitutionnel et on évitera de déchirer le pays dans les violences des contestations.
Maître Carlos Mupili, vous êtes coordonnateur de la société civile Force Vive de Kinshasa. Nous venons de vous suivre là. Maître, pour commencer, quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour faire une telle demande au gouvernement ou au Parlement?
Merci Alain. Nous, nous sommes une coordination provinciale de la société civile Force Vive de Kinshasa. Nous avons en notre sein environ 520 observateurs à long terme. C'est-à-dire, nous observons le processus électoral, contrairement aux observateurs à court terme qui observent le scrutin, qui est l'opération de vote et de dépouillement. Et à cela, nous avons eu à identifier tous les acteurs du processus électoral. Et à cela, nous avons eu à observer si chacun de ces acteurs joue vraiment son rôle selon les missions qui lui sont formelles pour afin d'accompagner le processus électoral. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que chaque acteur n'a pas joué valablement son rôle. Et ce qui fait que la responsabilité qu'on croyait être exclusive à la CENI, nous avons vu que la CENI peut être dispensée sur cette responsabilité. Mais le contraire, le 7 parties prenantes sont vraiment plus responsables. Et là, nous avons eu un peu analysé chaque partie prenante et adressé des recommandations. Et pour terminer, c'est là la conclusion que vous venez de suivre et que nous avons trouvé que non, le temps, c'était vraiment un défi majeur, redoutable et qu'on ne peut pas remédier avec le temps. C'est pourquoi, pour éviter cette crise qui s'annonce déjà, la crise politique, le chaos constitutionnel, nous avons souhaité que le gouvernement, soit le président de l'une des chambres du Parlement, saisisse la Cour constitutionnelle afin de plaider les cas de force majeure pour éviter le chaos. Comme ça, la Cour constitutionnelle, après l'avis technique de la CENI, pouvait prolonger le délai ou dépasser les délais qui est aujourd'hui la frontière infranchissable, la frontière rouge, afin de nous éviter tout ce que nous sommes en train de craindre en tant que peuple.
Alors, quelles sont les dispositions constitutionnelles sur lesquelles la Cour constitutionnelle pourrait se baser pour donner son avis? Car, comme vous le savez, l'article 160 de la Constitution dit qu'elle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi.
Ok. La Cour constitutionnelle, c'est un pouvoir correcteur, régulateur. C'est que quand vous prenez le texte, donc la Constitution, la question qui est sous examen, que nous sommes en train d'analyser, n'est pas prévue dans la Constitution. C'est-à-dire, lorsque le président est à la fin mandat, suite à des circonstances que je ne sais pas comment justifier, que doit être prévu? Mais c'est là où je fais allusion maintenant à l'article 161 de la Constitution. C'est-à-dire, on saisit le juge constitutionnel pour l'interprétation. Voilà.
Alors, il serait profitable, dites-vous, que le gouvernement ou le président de l'une des chambres du Parlement saisisse les juges constitutionnels pour plaider le cas de force majeure. À quel moment, selon vous, peut-on évoquer le cas de force majeure?
Évidemment. Il y a trois critères classiques de la force majeure. Il y a l'extériorité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un événement extérieur à la personne mise en cause, il faut qu'on constate que la personne mise en cause ne l'a pas fait d'une manière délibérée et que c'est indépendamment de sa volonté. Deuxième critère, le critère d'imprévisibilité. C'est qu'on constate qu'il y avait l'impossibilité de prévenir ou d'éviter l'événement ou d'éviter à ce que la personne mise en cause puisse accomplir son obligation. Troisième critère, l'irrésistibilité. C'est-à-dire, c'est un événement insupportable. J'ai donné l'exemple des catastrophes naturelles, des érosions, tout consort, et des événements politiques, la rébellion et la guerre. Mais la doctrine explique, et c'est la doctrine qui me pousse, moi, à penser de la manière. Là, vous prenez Paul-Henri Automatei. Cet auteur d'une thèse sur la force majeure affirme qu'il ne s'agit pas de savoir si l'événement est prévisible, mais s'il est évitable. Exemple, l'ouragan est prévisible, mais on ne peut pas l'éviter. Donc, c'est le cas où nous sommes. Je parle bien que le gouvernement ou le président de l'une des chambres pourront aller plaider, c'est-à-dire défendre la cause. Je ne me mets pas sous leur peau, mais j'ai dit, c'est le cas d'aller plaider.
Alors, avant que je ne donne la parole au professeur Chibangu, l'article 70 de la Constitution, dans son alinéa 2, dit, je cite, « À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. » Est-ce que quand vous parlez de chaos constitutionnel, vous voulez faire allusion à cette disposition?
Ici, je réfléchis avec la tête du juriste, mais avec le cœur de la société civile. Nous sommes en train d'observer ce qui se passe aujourd'hui. Je parle même, nous sommes en train d'observer ce qui nous donne même de l'angoisse.
Et c'est quoi?
Il y a les gens qui attendent que la date arrive pour faire je ne sais pas quoi, mais que nous tous nous connaissons. Il y a les autres qui s'appuient à cet article. Les autres disent non, cet article n'est pas bien placé. Il faut qu'il y ait un président élu. Donc cette contradiction-là, et comme tout le monde a un dénominateur commun, c'est-à-dire le respect de la Constitution, alors nous disons ceci, on doit aller où? La Constitution n'a pas prévu qu'en cas de sa violation ou de son interprétation, il faut aller soit dénoncer le président ou le gouvernement devant la communauté internationale. C'est devant le juge constitutionnel qu'on doit aller puiser l'interprétation d'une loi constitutionnelle.
Merci maître. Professeur Chibangu Kalala, vous êtes professeur de droit et président du parti politique Notre Beau Pays, parti de l'opposition. Professeur, comment vous analysez cette proposition de la société civile Force Vive de Kinshasa?
Allez, donc d'abord merci pour m'avoir invité à cette émission et je salue mon collègue et ami
Félicien Kabamba.
Félicien Kabamba, que je n'ai pas vu ça fait longtemps, je suis heureux de le retrouver ici. Je salue également mon confrère Maître
Mopili.
Maître Mopili. Je le félicite pour sa proposition. Nous sommes dans un moment où toutes les élites de notre pays doivent réfléchir, faire des propositions pour faire avancer le pays. Et donc je le félicite pour avoir eu ce courage dans le cadre de leur association de faire une proposition. Mais il faut faire très attention. Allez, donc. Il faut savoir de quoi nous parlons. Nous parlons de la RDC, de quelque chose qui est plus grand que nous tous. Nous parlons du peuple congolais, quelque chose d'extraordinaire, de plus grand que nous tous. Donc il faut faire très attention quand on vient avec des propositions à mettre sur la place publique. La saisine de la Cour constitutionnelle pour pouvoir fixer notre calendrier électoral, notamment pour l'élection présidentielle, par l'Assemblée nationale, le Sénat ou le gouvernement. Mais il faut partir de la Constitution. Eh bien, on ne peut pas invoquer l'article 161 qui permet, alinéa premier, qui permet à 15 sénateurs, plutôt que le 10e, ou peut-être 50 députés nationaux, ou le président de l'Assemblée nationale, ou le gouvernement, etc., de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de la Constitution. Sur le papier, oui, c'est prévu. Mais il faut faire attention. Nous sommes dans une matière qui est réglée par la Constitution. L'article 161 ne peut pas être invoqué, être appliqué, si cette application a pour conséquence de violer un autre article de la Constitution. Donc les articles de la Constitution constituent un tout cohérent. Ils doivent s'interpréter les uns par rapport aux autres. La matière électorale a été confiée de manière exclusive à la CENI par la Constitution. C'est l'article 211. Et donc, le gouvernement ne peut pas aller saisir la Cour constitutionnelle pour dire, écoutez, il y a des problèmes, moi, gouvernement, moi, président de l'Assemblée nationale, je vous demande de faire des propositions pour fixer une autre date, une autre calendrier. Ce n'est pas de la compétence du gouvernement. Cette matière est réservée exclusivement à la CENI. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nous avons un précédent de 2006. Je demande à Maître Mopili d'aller consulter les arrêts de la Cour suprême de justice. Au mois de septembre 2006, on s'est trouvé devant la même difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Il y avait un problème de deux tours de l'élection présidentielle. On a organisé le premier tour, et entre le premier tour et le deuxième tour, à l'époque, on prévoyait un délai de 15 jours, l'article 71. Cet article a été déjà supprimé, abandonné en 2011. Mais après la publication des résultats du premier tour, la CEI à l'époque s'est dit, écoutez, on me donne 15 jours pour organiser le deuxième tour de scrutin, ce n'est pas possible, il faut faire imprimer les bulletins en Afrique du Sud, il faut que ça vienne ici, il faut les déployer à travers le pays, ce dispositif matériel, ça va prendre 26 jours au moins. Mais ici, on me donne 15 jours, ce n'est pas faisable. Et c'est la CEI qui est le pouvoir organisateur des élections, qui à l'époque a saisi la Cour suprême de justice pour poser ce problème-là, des contraintes matérielles. D'ailleurs, la Cour, à l'époque, la CENI parlait du cas des forces majeures. Et là, je signale au confrère Mopili que la question des cas de forces majeures ne joue plus parce que la Cour suprême l'avait rejeté à l'époque. Voyez-vous ? Et donc, il faut faire très attention sur cette question-là. C'est une matière qui est réservée exclusivement à la CENI. C'est la CENI qui peut saisir la Cour constitutionnelle, mais pas le gouvernement, pas l'Assemblée nationale, etc. Sinon, on fait la confusion.
Alors professeur, terminez votre propos. Terminez.
Et donc, j'ajoute sur ce point précis, ça c'était un liminaire, hein, voyez-vous. Et à l'époque, la question était réglée, le cas de force majeure. La Cour suprême a dit qu'il n'y a pas de cas de force majeure qu'on peut invoquer parce que l'élection est prévue 5, 4 ans avant. Tout le monde sait qu'à telle date, on doit organiser l'élection.
Donc, on ne peut pas venir. Que, la CENI, c'est seule la CENI qui est habilitée à saisir la Cour constitutionnelle.
Mais dans un contexte bien déterminé. Et ce contexte, Alei Rung, ce contexte-là, c'est l'article 75-67. Alors pour quand il y a un président intérimaire, si vous voulez, je peux m'expliquer.
Alors professeur, la société civile n'a-t-elle pas le mérite finalement d'attirer l'attention sur le chaos constitutionnel en faisant, si on faisait référence à l'article 70 de la Constitution dans son alinéa 2 que j'ai lu tout à l'heure, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Si au 19 décembre on n'avait pas un président élu, qu'est-ce qui se passerait? Ne serions-nous pas dans un chaos constitutionnel, comme ils le disent?
Il n'y aura pas chaos constitutionnel, parce que la Constitution a déjà réglé ce qui doit arriver. Je crois qu'on s'était déjà expliqué sur ce sujet au micro de Radio Capi. Moi, je souhaite qu'il y ait l'élection présidentielle avant le mois de décembre, et qu'il y ait une passation civilisée, pacifique et ordonnée de pouvoir. Mais s'il n'y a pas élection, il n'y aura pas chaos, parce que la Constitution a prévu ce qu'il faut faire.
Et qu'est-ce qui va se passer?
Et ce qui doit se faire, dans cette hypothèse-là, ce qui doit se passer, c'est ceci. Nous arrivons au 20 décembre, nous allons constater tous que le président de la République, en fonction, n'a plus mandat. Il a vidé totalement ses deux mandats. Donc son deuxième et dernier mandat constitue une cause d'empêchement définitif. C'est l'article 70, alinéa 1er.
Et à ce moment-là, c'est le président du Sénat qui...
Alinéa 1er. Donc, c'est une cause d'empêchement définitif. Parce qu'il ne peut pas aller au-delà de 10 ans.
Conséquence, le président du Sénat
pas 2 jours de plus.
Assurerait l'intérim.
Et donc, on doit constater la vacance. Voyez-vous? Parce que, allez donc, 10 ans, c'est 10 ans. Voyez-vous? Donc, on ne doit pas violer l'article 70, alinéa 1er. Et donc, en ce moment-là, c'est l'article 75 qui entre en mouvement. Et donc, on doit constater la vacance du pouvoir, donc le vide présidentiel, et en ce moment-là, on enclenche le mécanisme de constatation, justement, de la vacance pour cause d'empêchement définitif, et c'est le président du Sénat, c'est la Constitution que je dois voir, qui fait l'intérim.
Merci,
et qui doit organiser l'élection présidentielle dans un délai maximum de 4 mois. Et c'est dans ce contexte-là, uniquement, que la CENI peut justement s'adresser à la Cour constitutionnelle pour dire éventuellement, écoutez, les 3 mois, ça ne suffit pas, est-ce que vous pouvez m'ajouter encore 1 mois?
La force majeure.
Force majeure. Merci. Mais pas force majeure, la Cour suprême n'aime pas le mot force majeure.
Merci,
parle de contraintes matérielles.
Merci,
et
prof.
La Cour suprême a raison.
Professeur Félicien Kabamba, vous êtes professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur, comment vous analysez cette proposition? Vous avez suivi Maître Chibangu et Maître Mopili.
Je voudrais d'abord dire que j'ai eu l'occasion de parcourir le rapport de nos amis de la société civile. Je ne l'ai pas lu entièrement, mais j'ai eu une idée plus ou moins générale de ce rapport. Ils ont eu le mérite de pouvoir écrire et de réfléchir et de mettre sur la table les propositions de sortie des crises. Quand vous lisez ce rapport, vous avez un certain nombre d'éléments d'analyse. Certaines sont, à mon avis, assez limitées, et surtout quand ils commencent à analyser les différents acteurs, les acteurs aussi bien institutionnels que la classe politique. Vous avez là une analyse qui est, à mon avis, un peu plate, dans ce sens qu'ils n'entrent pas très en profondeur. Ils ne font pas une analyse à la fois politique et juridique, mais ils présentent, à mon avis, un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre à réfléchir. Mais ils ne font pas une analyse exhaustive de la situation politique et de la crise telle qu'elle se présente aujourd'hui. Revenons-en maintenant aux propositions qu'ils mettent sur la table. En fait, il y a plusieurs recommandations qu'ils ont adressé tantôt à la communauté internationale, tantôt à la classe politique, tantôt au gouvernement et à la CENI, à la Cour constitutionnelle. Et finalement, par rapport à la proposition qui est mise sur la table, celle de pouvoir s'adresser à la Cour constitutionnelle, je crois qu'ils eux-mêmes reconnaissent qu'en fait, la société congolaise est malade. Et que cette maladie n'épargne pas non plus les cours et tribunaux. Et quand vous lisez Montesquieu vous dit qu'en fait, le juge a reçu mandat de moraliser la vie politique. Mais en Afrique, et en RDC en particulier, les statuts du juge posent problème. Il est très difficile que même si, d'aventure, vous saisissez la Cour constitutionnelle, nous sommes tous dubitatifs sur le fait que véritablement, le statut du juge va lui permettre de bien jouer son travail. Et c'est là que leur proposition semble s'arrêter quelque part et ne va pas en profondeur dans une bonne lecture de la dynamique politique. Il me semble là qu'il y a un problème. À un moment donné, on parlait de dialogue. Le dialogue permettait, semble-t-il, de mettre les acteurs ensemble. Mais étant donné que les acteurs ne sont pas tous d'accord sur la question du dialogue, il me semble bien qu'eux proposent mettre sur la table de saisir la Cour. Est-ce une proposition pertinente? Il me semble qu'il faut encore réfléchir deux fois. Je demanderai à nos amis de la société civile d'avoir une bonne intelligence de la société congolaise, de ses différentes maladies, mais aussi
du contexte
général et global qui caractérise la crise politique aujourd'hui.
Alors, professeur, en parlant du contexte, il y a Roland Desaf de Kinshasa qui dit, à mon avis, cette société civile est acquise à la majorité présidentielle et sa proposition porte des germes de conflit.
Alors, quand vous lisez très bien la proposition qui est faite, c'est une proposition qui dit oui, mais parce que nous tendons vers la crise, tournons-nous vers le cours des tribunaux. Je crois que c'était quand même trop osé de mettre une telle proposition sous la table. Quand on sait, je venais de parler des statuts du juge aujourd'hui en RDC, qui, à mon avis, non pas que nous n'avons pas des juges compétents, intelligents et tout ça, non, ils existent. Mais ils travaillent dans un conditionnement qui est, à mon avis, très difficile. Il y a plusieurs pesanteurs. Alors, dans ce cadre-là, il sera très difficile, à mon avis, que de telles questions qui tiennent à la vie de tout un pays, de toute nation, soient réglées aussi facilement.
Alors, techniquement, professeur, le rapport de la société civile le dit également, que la CENI éprouve des difficultés pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. N'ont-ils pas raison de tirer la sonnette d'alarme? Il faudrait que la classe politique, les institutions y réfléchissent ici et maintenant.
Alors, cette question, on l'a toujours posée plusieurs fois, c'est-à-dire une difficulté de tenir le délai. Tout le problème qui se pose, c'est de dire, oui, comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé à cette difficulté d'organiser les élections? Est-ce ce qui a manqué, c'était quoi? Eux-mêmes, ils relèvent qu'il a manqué la volonté politique, qu'il a manqué la logistique, il a manqué, aujourd'hui, il manque le temps. Et donc, par rapport au temps, ils nous conseillent de nous rabattre sur la Cour constitutionnelle. Est-ce que cette proposition est adaptée et appropriée? Là, il me semble bien que nos amis de la société civile doivent encore bien réfléchir.
Quand vous vous posez la question sur le fait qu'elle soit adaptée ou pas, donc elle porterait des germes de conflit.
En fait, très dernièrement...
À la limite dangereuse.
Je ne pourrais pas adopter ce concept, mais il me semble bien qu'une telle proposition ne pourra pas faire consensus au niveau de la classe politique, encore moins au niveau de la classe intellectuelle. Ce serait très compliqué de pouvoir aller vers la Cour constitutionnelle et d'attendre d'elle qu'elle puisse arbitrer, étant donné les conditions dans lesquelles, évidemment, les juges travaillent.
Maître Carlos Mopili, a pour vous cette réaction qui nous vient, je pense, d'Afrique du Sud.
Monsieur Safat Kazimoto, depuis l'Afrique du Sud. C'était déjà prévisible que le gouvernement Kabila n'avait pas la volonté ni l'intention d'organiser les élections. L'opposition créée depuis des ans, haut et fort, quand il a compris tout l'enjeu, la population en fut victime en janvier 2015. Jusqu'aujourd'hui, le président Kabila n'a dit mot sur son successeur. Donc, à mon avis, ni la société civile, ni la Cour constitutionnelle, ni moi, le Parlement, ne peut aller à la contre de notre constitution qui nie à deux les mandats du président de la République et d'une durée non négociable de 5 ans. Toute autre manœuvre serait un coup d'État constitutionnel.
Maître, vous poussez au coup d'État constitutionnel.
Le contraire. Ici, parmi des recommandations que j'avais adressées même à la classe politique, j'ai demandé de s'inspirer de la philosophie de Platon.
allégorie de la caverne. On ne peut pas fanatiser les illusions ou les ombres. Moi, je ne veux pas voir les illusions, soutenir les ombres.
Vous voulez
je soutiens la vérité, et la vérité est en face. Mais au-delà de ça, je reviens à ce que le professeur Tshibangu disait. Je lui renvoie à l'article 76 de la Constitution, qui dispose « La vacance de la présidence de la République est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par les gouvernements. » C'est l'alinéa 1. Donc, dire qu'aujourd'hui, quelqu'un propose que le gouvernement saisisse la Cour constitutionnelle, que c'est un péché, mais c'est constitutionnel. Je vous envoie à son alinéa 4. À cas de force majeure, le professeur dit, la Cour constitutionnelle n'aime pas attendre les cas de force majeure. C'est que la Cour constitutionnelle n'aime pas lire la Constitution. Je trouve que c'est impossible et que c'est inadmissible que le juge constitutionnel refuse certaines phrases de la Constitution. C'est prévu. Je vous lis. À cas de force majeure, le délai peut être prolongé à 100 jours, à 120 jours au plus par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale nationale indépendante. Ici, cette disposition, selon ma compréhension, va tout simplement nous dire ceci. Lorsque la CENI est devant l'impossibilité technique, matérielle, d'organiser l'élection ou d'organiser le scrutin, il va devant le juge constitutionnel. Mais ici, moi, après nos analyses, nous avons constaté que chaque acteur n'a pas joué sa partition. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, la question est vraiment holistique. Vous pouvez dire, allons aux élections, comme le compatriote qui se trouve en Afrique du Sud. Mais il doit comprendre que la CENI, pour convoquer l'élection présidentielle, doit avoir un cadre légal, électoral, approprié, adéquat. Mais aujourd'hui, nous avons un cadre électoral, et un cadre légal électoral déficitaire. C'est que, à l'article 47 de la loi électorale, on prévoit le vote électronique par les Congolais vivant à l'étranger, comme les compatriotes qui sont en Afrique du Sud. Lui, on lui dit, il doit être enrôlé. Mais la loi qu'on a ici, sur l'identification et l'enrôlement des électeurs de 2004, l'exclut, lui, de s'enrôler. Donc, il faut réviser cette loi pour que les compatriotes puissent avoir l'accès de s'enrôler. Et s'ils s'enrôlent au niveau de l'Afrique du Sud, nous connaissons qu'aujourd'hui, il y a le principe du RETER sur la protection des données à caractère personnel. Je vous envoie lire la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité. Ça prévoit qu'on ne peut pas prendre l'identité d'une personne sans autant qu'il y ait une loi pour ta protection des données à caractère personnel. Et je voulais expliquer.
Très rapidement.
Oui. Et comme vous évoquez le vote électronique, ça fait appel à plusieurs besoins légaux. Vous m'avez présenté comme société civile, mais je vous informe que je suis cyberjuriste. Nous ne sommes que deux au Congo. Un, il faut qu'il y ait une loi pour la protection des données de caractère personnel. Deux, il faut qu'il y ait une loi sur voilà, la.
On comprend pour la qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs préalables, maître, mais il y a des auditeurs qui nous écrivent. Litiza Koulimouche, Evariste de Bukavu, dit cette demande de la société civile Force Vive de Kinshasa est, à mon humble avis, tendancieuse et doit être le plus tôt découragée, d'autant plus qu'elle veut tenter le diable du dépassement du délai constitutionnel qui est encore récupérable s'il y a un peu de volonté politique de la part de ces institutions. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je lui réponds qu'il se rappelle en 2005. Les 30 juillet, tout s'arrête. Ça, c'est le président de l'UDPS qui l'a dit. Et qui était aux institutions? C'est ce qu'ils disent aujourd'hui que ce glissement est volontaire. Nous sommes en 2000. Alors, on devrait corriger 2011. Le professeur, je reconnais encore son intelligence lorsqu'il était dans l'hémicycle du Palais du Peuple, où il veut prévenir les cas des démembrements des provinces. Parce que dans 36 mois, selon la Constitution, selon l'article 2, il fallait qu'on puisse prévenir ça. Et au lieu, la loi électorale a été révisée, c'est après 2009. Mais pourquoi on n'a pas prévenu tout ça? Je crois que notre pays, Nous n'avons pas la culture de la planification. La preuve, c'est que ceux qui nous gèrent, et ce sont des professeurs et des diplômés ici d'une université où il y a des années élastiques.
Merci.
C'est que l'année académique, lorsqu'on fait, au lieu d'étudier une année, on fait deux ans. C'est-à-dire il y a le glissement, ce glissement-là est aussi voulu? Non. Je crois que devons aussi changer les choses pour aussi améliorer.
Merci. Professeur Tshibangu, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de la province de la Lomami.
C'est François Kalemwe depuis la province de Lomami, dans le chef-lieu qui est Cabinda. La société civile a raison, car qu'il pleuve ou qu'il neige, le glissement est peint déjà là, étant donné que 9 mois seulement nous séparent de la date du 20 décembre 2016. La meilleure solution ne viendra ni de la communauté internationale, ni de la Cour constitutionnelle, moins encore de la CENI, mais du dialogue convoqué par le chef de l'État à travers lequel les politiciens doivent soit envisager une transition de 2 ou 3 ans ou encore penser à l'organisation du référendum populaire comme ça a été fait respectivement en République centrafricaine et au Congo d'en face pour éviter que le sang coule en République démocratique du Congo. Le peuple a besoin de la paix et non de tous ces tiraillements des politiciens, surtout ceux de l'opposition.
Professeur Tshibangu.
Oui. Allez, donc je vais apporter quelques précisions à tout ce que nous venons d'entendre. Il faut savoir que la Cour constitutionnelle a des missions bien précises. La Cour constitutionnelle n'est pas là pour faire de la RDC une république des juges. Ou quand il y a un problème dans le pays, il faut aller à la Cour constitutionnelle. Donc les politiciens, les dirigeants, les acteurs politiques doivent apprendre à régler le problème en dehors des juges. La Cour constitutionnelle a une mission de veiller à la bonne application de la Constitution dans le pays. Sur des questions électorales, de calendrier, des élections, ces missions sont également très claires. C'est le contentieux électoral, élection présidentielle ou législative, c'est la proclamation des résultats définitifs, c'est recevoir le serment du président de la République élu. Et donc, il ne faut pas chercher à utiliser la Cour constitutionnelle à des fins qui ne rentrent pas dans ses compétences. Il ne faut pas justement que la Cour constitutionnelle soit amenée à prendre la place du peuple, à rédiger elle-même une nouvelle constitution, donc à devenir un autre constituant dérivé. C'est très dangereux ça. Donc la matière dont nous parlons, parce que nous sommes sur une question bien précise, est-ce que le gouvernement où les députés et les sénateurs peuvent saisir aujourd'hui la Cour constitutionnelle pour lui demander, si vous voulez, de fixer notre calendrier électoral. C'est ça la question. Donc, de dépasser le mois de décembre pour l'élection présidentielle. Dire oui, je fixe un délai jusqu'au juin 2017 ou 2018. C'est ça la question de ce soir. Et je réponds sur cette question fondamentale que le gouvernement ou le Parlement ou les députés, etc., n'ont pas compétence d'aller saisir la Cour constitutionnelle sur des questions des élections. Il n'y a que la CENI qui peut le faire. Et le faire dans quel cadre, à l'Eurung, il faut encore préciser, parce qu'il faut lire la Constitution. Ce n'est que dans l'hypothèse et dans le contexte où il y a vacances constatées, l'article est très clair, et qu'il faut mettre en place le président de la République intérimaire. Et la CENI doit organiser les élections dans un délai de 90 jours au maximum. Si ces 3 mois ne suffisent pas, la CENI est alors autorisée à saisir la Cour constitutionnelle, dans un contexte bien précis. Ce n'est pas pour venir aujourd'hui, vous avez posé une question intéressante il y a quelques minutes, pour dire, mais écoutez, à partir de quand on peut saisir la Cour constitutionnelle? Parce que l'exemple que j'ai donné de 2006, c'était, la Cour suprême était très restrictive, très 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 sévère, en disant, mais voilà, vous venez pour me dire qu'il y a un cas de force majeure. Mais moi, Cour suprême, je vous dis, vous, CEI, qu'il n'y a pas un cas de force majeure. Parce que force majeure, c'est un cas qui est imprévisible. C'est une élection normale. Tout le monde s'attendait à cela. Et donc, s'il y a des contraintes réelles, ok, on peut en parler, mais je ne peux pas vous donner un délai excessif. Vous allez avoir un délai strictement nécessaire pour organiser le deuxième tour. Et je vous donne 50 jours, alors pas au-delà. Professeur. Et donc, c'est une matière très sensible, très encadrée. Il ne faut pas venir aujourd'hui pour faire en sorte que la Cour constitutionnelle puisse prolonger le mandat du président en fonction.
Mais professeur, Maître Moupili vous a opposé l'article 76 dans son alinéa premier. Oui. La vacance de la présidence de la République est déclarée par la la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement.
Mais c'est tout à fait exact, justement. Donc, le gouvernement, c'est la Constitution qui le prévoit, qui dit que le gouvernement peut saisir la Cour constitutionnelle pour lui dire, attention, vous, Cour constitutionnelle, il y a une vacance à la présidence de la République. Il y a décès, il y a, je sais pas, maladie, il y a cause d'empêchement définitif, et dans le cas d'espèce, expiration définitive du mandat du président, je vous demande, vous, Cour constitutionnelle, de constater la vacance. C'est bien limité, c'est bien encadré. Ce n'est pas une saisine pour n'importe quel problème. Alors, pour venir dire, écoutez, allez donc, soyons sérieux.
Très rapidement.
Le gouvernement va aller à la Cour constitutionnelle avec quel dossier? Ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections.
Merci.
Est-ce qu'il va se présenter devant la Cour constitutionnelle sur procuration de la CENI? Parce que c'est la CENI qui est seule compétente pour traiter les questions électorales.
Merci
pour elle l'a fait en 2006. Et aujourd'hui, si le problème se pose au mois de décembre, la Constitution a réglé la question.
Merci pour
Donc il n'y aura pas catastrophe, sauf si dans la classe politique ou parmi les dirigeants, il y en a qui veulent provoquer la catastrophe.
Merci professeur, je vous redonne la parole. Professeur Félicien Kabamba, il y a pour vous cette réaction, on va l'écouter.
Moi, c'est Junior Bumpongo, à partir de la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. La société civile vient de nouveau jeter de l'huile sur les faits, car, vu la mauvaise volonté du gouvernement de résoudre les contraintes liées à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Ainsi, j'ai paru cette déclaration d'internatisme mal négocié, qui tape au petit filet, car il n'appartient ni au gouvernement, encore moins au Parlement, de saisir la Cour sur l'organisation ou pas des élections. À mon humble avis, une société civile bicéphale ne peut avoir des oreilles qui les sourdent.
Professeur.
c'est une réaction qui me fait rigoler, bien entendu. Je crois que nos amis de la société civile ne vont pas jeter la pierre dessus. Il y a plusieurs réflexions qui sont faites sur la crise actuelle. Ils ont fait également la leur et ils mettent sur la table une proposition. C'est à nous, c'est aux Congolais de dire, est-ce que cette proposition, elle est potable? Eh bien, le professeur, mon collègue, vient de montrer qu'évidemment, il y a des erreurs, il y a des erreurs d'analyse dans les propositions qui sont faites. Moi, je ne pourrais pas dire que nos amis de la société civile ne pouvaient pas tenter une proposition. Moi, je crois fermement qu'ils ont pensé pouvoir contribuer à la recherche des solutions et donc ils ont mis ça sur
le professeur, la... la proposition de la société civile, j'y reviens, n'est-elle pas réaliste? La société civile ne dit-elle pas tout haut ce que la classe politique se dit tout bas?
Il me semble qu'il faut encore bien écouter la classe politique pour mieux comprendre qu'en fait, si la question était posée à la classe politique, vous allez certainement avoir plusieurs sons de cloche. Et je n'ai pas encore entendu, il me semble, une proposition pareille. Donc, c'est la première fois que j'entends une proposition qui, malheureusement, ou heureusement, ne vient pas de la majorité, mais vient plutôt de la société civile. Et je doute fort qu'au niveau de l'opposition, qu'une telle proposition puisse être acceptée.
Christian Sieboua-Diago a dit, à mon avis, la population doit être vigilante face à la justice au regard de ce qui vient de se passer avec les élections des gouverneurs. Cette proposition est une stratégie du pouvoir qui est derrière cette frange de la société civile pour trouver une formule en leur faveur. La Constitution sera l'arme de la population, professeur.
Bon, en fait, on ne va pas trop cribler la société civile pour avoir mis cette proposition sur la table. Dire également qu'ils sont de la majorité, moi je n'ai pas de preuve de ça, mais je crois qu'en lisant leurs documents, parce que j'ai eu l'occasion de lire leurs documents, il y a à mon avis quelques insuffisances d'analyse. Des insuffisances d'analyse qui finalement les rattrapent au niveau des recommandations qu'ils font. Ils ont fait plusieurs recommandations. Et ça, c'est l'une des recommandations. Alors, quand vous lisez les recommandations, vous allez vous rendre compte qu'en fait, aller responsabiliser la Cour constitutionnelle, mais semblait quand même une option trop posée.
Maître Carlos Mupili, le professeur le disait tout à l'heure, il n'avait pas de preuves, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui pensent que vous êtes en train de relayer la voix de la majorité présidentielle à travers votre proposition.
Oui, alors, aujourd'hui il n'y a plus de secret. Le prof était dans la majorité. Et moi j'étais dans la société civile. S'il me voyait, il va le dire sur les plateaux. Aujourd'hui il n'y a plus de secret.
du fait que ce qui était dans l'opposition sont aujourd'hui dans la majorité. Et ce qui était dans la majorité sont aujourd'hui dans l'opposition. Donc, il n'y a plus d'opacité. Mais, d'où est venue mes analyses? Non, nos analyses. Nous avons eu à expliquer qu'aujourd'hui, on n'a pas un cadre légal. C'est le problème du Parlement où siège l'opposition et la majorité. Et par rapport au cas des forces majeures, moi, je respecte Fabrice Lemaire. Ses doctrinaires disent ceci. L'irrésistibilité suffit à elle-même que l'imprévisibilité. Et même la jurisprudence en France qui insiste que l'irrésistibilité est préférable que l'imprévisibilité.
Mais on ne va pas tomber dans un juridisme que les auditeurs ne comprendraient pas. Le professeur Félicien Kabamba a attiré votre attention sur le fait que vous devriez bien écouter le son de la classe politique et être réaliste aussi.
Qu'est-ce que nous avons eu à observer dans la classe politique? Je crois qu'il a lu ça en diagonale, mais il aura le temps d'approfondir la question. Nous trouvons que les gens refusent de voir la réalité en face. Surtout avec des partis politiques qui sont dirigés par des présidents rois. Tel parti a dit, alors que c'est le zumeur d'un président monarque. Le parti politique où l'individu président, avec ses humeurs, avec ses sentiments, prime sur tout le monde. Les partis ne sont pas démocratisés. L'idéologie ne prime pas sur les individus. Dans ce cas, il y a un sérieux problème. Mais ce que nous disons aujourd'hui, même si on ne veut pas nous attendre, allons, par exemple, dans l'hypothèse qu'on peut convoquer l'élection présidentielle au mois de septembre.
Et c'est par là que vous concluez parce que l'émission va se terminer.
Oui. J'ai dit, on convoque l'élection présidentielle au mois de décembre avec cette loi électorale. Mais je me pose la question. Comment, aujourd'hui, au mois de septembre, on va terminer l'enrôlement de tous les Congolais et même les compatriotes qui sont en Afrique du Sud? Ils vont voter comment? Et l'exclure, c'est violer la loi électorale.
Et en un mot, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral? Pour conclure.
Je trouve que tous les acteurs s'entendent, qu'ils laissent d'abord ce qui les divise. Qu'il regarde l'intérêt supérieur
dans un dialogue.
Dans un dialogue, pour obtenir le consensus. Qu'elle a signé à partir de ce consensus, nous donner un calendrier. Et ce calendrier qui sera respectable. Et que chaque...
Même s'il violait la Constitution.
Non, j'ai dit ceci. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque le juge constitutionnel pouvait nous donner un délai raisonnable après l'avis technique de la CENI, que ce soit que la Cour constitutionnelle ne peut pas être saisie pour l'interprétation et qu'on veut que c'est la CENI, c'est là, moi, je vois d'abord que les vies humaines, nous devons préserver la paix.
Merci, maître. Professeur Tshibangu, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral avec cette proposition?
Oui, là, c'est une mauvaise proposition qu'il faut abandonner. Elle est d'abord inconstitutionnelle parce que le gouvernement ou le Parlement ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle en matière d'opération électorale. Il n'y a que la CENI qui peut le faire et dans un cadre bien déterminé en cas de vacances à la présidence de la République. Deuxième chose, pour moi, il n'y aura pas chaos au mois de décembre prochain parce que s'il n'y a pas élection d'un nouveau président de la République en décembre prochain, la Constitution prévoit ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut constater la vacance du président sortant, étant donné qu'il aura totalisé 10 ans, et donc il n'a plus de possibilité pour continuer. Et en ce moment-là, c'est le président du Sénat qui va prendre la relève et qui va veiller à l'organisation de l'élection présidentielle, en collaboration bien entendu avec la CENI, suivant les délais et les conditions prévues par la Constitution. En ce moment-là, Alain Irung, ça sera la voie de la grandeur de la RDC, de la stabilité et de la paix.
Merci.
Tout autre schéma va nous amener à la contestation.
Merci, professeur.
Et ça sera le fait dans le pays.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, conclusion.
Non, mais je crois que le processus électoral est véritablement dans le sinistre et qu'il faut aujourd'hui essayer de penser l'après mois de décembre. Et actuellement, le processus de dialogue n'a pas démarré. Il faut absolument que la classe politique arrive à trouver une formule. quelle est la formule qui est adaptée à la situation.
Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à l'équipe rédactionnelle de Dialogue entre Congolais, Guima Tekelin Kouteberi, Franklin Luchaka, sous la supervision de Julien Nyamouini, mise en onde de Paul Badianyama, coordination et présentation, Alain Roumouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.